Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Larzac, nous sommes en direct. Je ne suis pas seule, je suis avec William et Didier, salut à tous les deux.
Salut Sophia.
Et avec Nico à la technique, salut Nico.
Bonjour tout le monde.
Et on n'a pas dit que c'est une journée très spéciale pour nous. C'est une journée d'émission en direct et en public depuis la caravane studio de Radio Larzac qui est installée depuis hier sur la place de la Cavalerie. Et c'est la première escale d'un projet initié cette année par la radio dont Didier va vous parler. Mais Nico, ce n'est pas la première fois que la caravane se balade.
Non, on l'avait déjà sorti à la création de Radio Larzac. On a commencé comme ça avec le studio mobile. On n'avait pas encore de fréquence, du coup on s'est dit qu'on allait créer un studio mobile et se déplacer sur le territoire. Et puis il y a une dizaine d'années, autour de 2011, on avait fait une série déjà de caravanes en balade. On était notamment allé à Veyro, à l'Hospitalet, à la Couvertoirade, à Gueussac.
Sainte-Eulalie de Cernan.
Sainte-Eulalie, ouais, voilà.
Parce qu'on va en reparler aujourd'hui.
Voilà, donc c'est un projet qu'on a ressorti des cartons cette année.
Et oui, alors Didier, tu es président de Radio Larzac depuis pas très longtemps, même si tu es impliqué depuis déjà quelques années. Et donc tu as fortement cru en ce projet et donc je te laisse le présenter.
C'est vraiment impressionnant d'être là aujourd'hui pour cette première, parce qu'en fait il s'agit d'un projet plus vaste qui s'appelle la caravane en balade. C'est une action lauréate du prix Rural Move, famille rurale, qui est soutenue par un fonds de dotation Rural Move, par le programme LEADER, oui, c'est un programme européen qui est piloté par le Parc National Régional des Grands Causses et qui est parrainé plus spécifiquement ici par l'association Rural Move du Larzac et qui est évidemment soutenu par la mairie de la Cavalerie. On y reviendra tout à l'heure. Alors l'association Famille Rurale nous soutient, d'où le fil rouge qui va être le fil rouge de notre présence qui va être consacré à la parentalité en milieu rural. Alors, vous l'avez peut-être compris, il s'agit d'une première étape d'un projet à la Cavalerie qui sera suivi par le même type d'émission à Saint-Rome-du-Tarn et au Viala du Tarn et qui se terminera en fin d'année au Clapier à l'occasion de l'inauguration d'un tiers-lieu. Alors, à cette occasion, je tiens à remercier toute l'équipe de Radio Larzac qui s'investit beaucoup dans ce projet. Donc on a cité Nico, Sophia et William qui vont intervenir pendant l'émission. Mais je tenais aussi à remercier Alex, chargé de projet et tout particulièrement chargé de ce projet. À Clara, notre service civique et à tous les bénévoles de Radio Larzac, en insistant tout particulièrement sur Marie-Vonne qui vient de me rejoindre. Voilà, Sophia, à toi d'animer cette émission. Qui va être particulièrement intéressante, je le sens.
Oui, tout à fait, merci Didier. On va en effet parler de la cavalerie, vu qu'on y est, présenter la commune dans ses aspects démographiques, sociaux, dans ses aspects d'actualité, mais aussi historiques. Et je vais bien sûr l'animer avec mon fidèle William.
Le duo que France Inter nous envie.
Alors vous ne les voyez pas, mais c'est impressionnant. Hein,
pour animer les matinales.
Et donc, Monsieur le maire Nicolas Muret va nous rejoindre pour présenter la cavalerie. Mais on a le plaisir d'accueillir Sandrine Pierre, guide conférencière et référente du point accueil de la mairie, pour parler de l'histoire du village et notamment de son histoire templière et hospitalière. Bonjour Sandrine.
Et bonjour.
Et puis, il y aura aussi un autre invité qui va nous rejoindre, c'est Jean Dandrieux, un ancien maire de la cavalerie de 1979 à 1995. Donc, il pourra nous parler de l'histoire plus récente de la commune. Et il habite juste à côté de là où on est, donc je pense qu'il va nous écouter et nous rejoindre. Eh bien, on peut commencer, William.
On commence avec Sandrine, alors. Quoi de plus normal que de parler d'histoire en étant la cavalerie, puisque c'est un gros symbole historique du Larzac et de toute la région du Sud-Aveyron. Et alors, Sandrine, on va se tutoyer.
Oui.
Parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, ouais. Mais quand je suis rentré tout à l'heure au point d'accueil, et on s'est dit, mais on se connaît en fait. Ouais. Donc oui, on a un petit passé lointain commun, parce que moi aussi, j'ai travaillé dans le tourisme. Et on s'était connus par contre à des cours de théâtre, parce qu'on avait besoin d'apprendre à s'exprimer, mais je ne savais pas à l'époque qu'un jour je ferais de la radio. Alors bonjour Sandrine.
Et bonjour.
Donc Sandrine Pierre, tu es originaire, je crois, de la région.
Oui, en grande partie du côté maternel. Donc je puise mes racines en partie sur le plateau du Larzac à la Cavalerie.
Donc tu as choisi effectivement de t'investir aussi sur ce territoire par rapport à peut-être une passion qui était l'histoire, ou c'est un peu un hasard ?
Non, c'est pas un hasard. J'ai d'abord été guide ailleurs. Et en fait, on m'a proposé de travailler ici à la Cavalerie à une époque où on cherchait des personnes pour tenir le point d'accueil et faire des visites guidées. Et c'est vrai que l'histoire m'a toujours beaucoup plu. Et le fait de travailler avec des gens comme Jacques Miquel,
un historien connu,
voilà, qui faisait partie du syndicat mixte Larzac Templier Hospitalier. J'ai appris l'histoire de ce village de la Cavalerie grâce à lui, et ça m'a permis aussi de me réapproprier une partie de mes racines familiales.
D'accord. Et donc ça fait combien d'années du coup que tu...
28 ans.
Ah oui.
Ah oui.
Fidèle au poste, donc.
Fidèle au poste.
Alors, le rôle de ce point d'accueil, c'est pas vraiment un syndicat d'initiative, hein.
Non, c'est vrai qu'on renseigne les visiteurs sur les possibilités de visite alentour, l'hébergement, la restauration et toutes choses qu'ils ont besoin de savoir. Mais la mission du point d'accueil, c'est d'apporter des outils de médiation sur l'histoire et le patrimoine de la Cavalerie dans un contexte bien particulier, qui est celui de la thématique des Templiers et des Hospitaliers sur le Larzac, puisque la Cavalerie était un des villages constituants de la commanderie du Larzac, dont le siège était Sainte-Eulalie, et qui comprenait également, à l'époque des Templiers, la Couvertoirade.
On y reviendra de façon plus précise. Alors, la Cavalerie, un nom qui semble assez usuel, de suite, évidemment, pince à cheval. Tu en connais l'origine du...
Oui. Alors, c'est la traduction en français de... La Cavalorio, ou La Cavalorio, selon l'accent qu'on a, en occitan, qui voulait dire la chevalerie, et qui, en fait, fait référence à l'origine templière du village, puisque c'est le lieu de résidence des chevaliers, sous-entendu, de l'ordre du temple. Mais en fait, il faut savoir que le premier nom du village, c'est Milicia Nueva, qui fait référence à Milicia Christi, une toute première dénomination des templiers. Alors, je ne sais pas si j'anticipe trop sur les questions que tu vas me poser, mais...
Non, mais en fait, ça fait le lien avec une question que qu'on voulait te poser, puisqu'on les a préparées ensemble avec Sophia. Du coup, là, tu donnes un nom latin, romain.
Oui.
Et effectivement, on est sur une ancienne voie romaine qui allait de Segodunum, Rhodes, à Luteva, Lodève et jusqu'à la Via Domitia. Oui. Qui est cette grande voie romaine qui reliait la péninsule ibérique à l'Italie actuelle, quoi, à la Rome antique. Et donc, j'ai l'impression que ça, depuis tout temps, était un lieu de passage. Pardon.
Absolument, absolument. Donc en fait, la Cavalerie vieille, c'est-à-dire le lieu dit que les Templiers ont investi à leur arrivée au XIIe siècle, était en bordure de cette voie romaine. Voilà. Et quand ils ont abandonné le site pour fonder ce nouveau village au XIIe siècle, l'ancien village s'est appelé Milicia Vetus, par opposition à la Milicia Nueva, qui allait devenir plus tard la Cavalorio et donc la Cavalerie.
Alors c'est vrai que c'est des noms qu'on est... Il y a la Cavalerie, l'Hospitalet aussi, ça a un lien avec les Templiers.
Non.
Ah, d'accord.
L'Hospitalet a été un relais de chasse, je ne sais plus si c'était 16e ou 17e siècle. Il y a par contre des sites archéologiques très intéressants, puisqu'on a retrouvé la fameuse plaque de plomb de la Druidesse, avec une prière, une incantation, une malédiction. Et il y a un centre archéologique sur l'Hospitalet. Mais là, on est... Non, ça ne faisait pas partie des sites inclus dans la commanderie du Larzac.
Alors... Donc avant les Romains, il y avait quand même aussi une présence, hein, puisque il y a pas mal de mégalithes. J'ai vu qu'il y avait un sentier des dolmens sur la commune de la Cavalerie.
Tout à fait. C'est une petite boucle de randonnée qui fait 2 heures, qui est balisée à la fois PR et GR. Et donc, on a un dolmen qui est classé monument historique, c'est le dolmen de la Fabière. Et l'autre qui est de l'autre côté de l'ancienne Nationale 9, qui est l'Oustal del Giant, la maison du géant.
Donc effectivement, tu as parlé de l'origine de la Cavalerie, mais qui n'est pas le seul village fortifié du Larzac. Il y a la Couvertoirade, Sainte-Eulalie de Cernon, Saint-Jean d'Alcas et la tour du Viala du Pas de Jau. Et la Cavalerie donc, a été, tu y reviendras, mais c'était important pendant le XIIe siècle, dans la période de l'ordre des Templiers. Mais ces villages fortifiés avaient tous des relations entre eux et des rôles particuliers aussi.
Oui, en fait, la commanderie au sens premier du terme, c'est le lieu de résidence du commandeur, c'est Sainte-Eulalie. Mais au sens large du terme, c'est tout le domaine. Donc les Templiers s'étaient rendus maîtres d'une grande partie du plateau du Larzac. Et comme ils avaient un grand territoire, ils avaient été obligés de regrouper les populations donc dans trois villages, Sainte-Eulalie, la Cavalerie, la Couvertoirade. Et on s'occupait d'agropastoralisme, bien évidemment, qui existait avant l'arrivée des Templiers. Donc la ressource économique, c'est ça. C'est la laine, le cuir, la viande, le lait, mais aussi des cultures céréalières pratiquées notamment dans la plaine du Temple, qui est une grande zone fertile qui s'étend au-delà de la cavalerie, l'hospitalier du Larzac, et où les Templiers faisaient des cultures céréalières, fourragères. Donc, tous les biens produits étaient censés être vendus, enfin, le surplus était censé être vendu, et cela générait des devises qui étaient ensuite réinjectées dans le fonctionnement de l'ordre du Temple en Terre Sainte. Voilà.
Donc effectivement, tu as parlé de cette position centrale de la cavalerie au bord de cette voie romaine et de cette plaine donc céréalière. C'est quelque chose qui a beaucoup favorisé son développement dans la période médiévale.
Oui, 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 tout à fait. Mais le développement quand même de la cavalerie a été très important à partir du XVIIe siècle. Quand on a créé la voie royale, numéro 7, me semble-t-il. Et là, on a intensifié les échanges commerciaux avec le Languedoc. Tout le long de l'axe, il y avait des relais de poste, des relais de diligence, des comptoirs, parce qu'on échangeait les produits du Sud-Rouergue avec ceux du Languedoc.
Alors, avant, quand même, on a sauté au XVIIe, mais il y a quand même une étape importante. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ces pauvres Templiers? Pourquoi ils disparaissent et pourquoi on a des Hospitaliers qui arrivent sur le Larzac?
Alors, les Templiers, les Hospitaliers sont un peu contemporains au niveau de leur création, même si l'ordre de l'hôpital est légèrement antérieur. Donc, en fait, après la perte de Saint-Jean d'Acre en 1292, c'est la fin de l'épopée des Templiers et des Hospitaliers en Terre Sainte. Ils passent à Chypre un certain temps. Les Hospitaliers vont faire la conquête de l'île de Rhodes. Leur idée, c'est de développer une flotte navale et de tenter de reconquérir la Terre Sainte. Et à partir de ce moment-là, l'ordre devient insulaire, souverain. Et les Templiers vont se replier finalement dans le royaume de France. Alors pour faire court, les Templiers, c'est une grande puissance militaire, financière, religieuse, qui ne doit obéissance qu'au pape.
Et ça ne s'appelait pas au roi.
Ça s'appelait pas au roi Philippe le Bel, qui est en délicatesse avec le pape, qui a réussi à faire élire un nouveau pape en Avignon, c'est Clément V. Et c'est celui-là même qui va abolir l'ordre du Temple, parce que Philippe le Bel fait arrêter les Templiers au motif que, bon, ils seraient capables d'hérésie, de pratiques sexuelles dites déviantes, d'avoir des rites secrets, d'être idolâtres, et de se fourvoyer dans la luxure, dans leur commanderie, en Occident, alors qu'ils n'ont plus besoin de toutes ces richesses, puisque la Terre Sainte est perdue, ils ont failli à leur mission, et qu'ils ne semblent plus vouloir tenter quelque chose pour la récupérer. Philippe le Bel, c'est un roi qui a compris que tous les contre-pouvoirs au sein de son royaume pouvaient fragiliser l'autorité royale, et il s'est appliqué à les neutraliser. Donc, il faut comprendre que les Templiers, tout comme les Hospitaliers, étant au service de la papauté, peuvent être très bien levé par le pape. C'est une armée que le pape peut lever contre un prince chrétien désobéissant. Voilà, donc arrestation de tous les Templiers dans le royaume de France en 1307. Procès, long procès. On obtient des aveux parce qu'on soumet ces pauvres Templiers à la torture. Et comme les hauts dignitaires vont terminer par se rétracter, on va les accuser d'être parjure. Et ce sont eux qui vont connaître le bûcher. 1312, abolition de l'ordre du Temple. Et le bûcher de Jacques de Molay et des dignitaires de l'ordre du Temple, c'est un 18 mars 1314. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, le pape va transférer les biens des Templiers aux Hospitaliers, comme ça, ça reste entre les mains de l'Église. Et donc, les commanderies rurales et les commanderies en général des Templiers passent aux Hospitaliers à partir du XIVe siècle.
Et donc, c'est les Hospitaliers qui édifient les remparts,
oui,
juste en face de là où on est installé à la cavalerie. Pourquoi et comment ?
Alors, en fait, ces remparts sont édifiés dans un contexte d'insécurité locale. Le 15e, c'est l'époque où se termine la guerre de Cent Ans. Donc tous les mercenaires qui étaient impliqués dans le conflit se retrouvent sans employeur, ils n'ont plus de travail et ils vont constituer ces bandes de voleurs de grand chemin qu'on a appelées les routiers. Et ils descendaient très régulièrement du Cantal, du Carladès, passaient sur le Larzac. Ils étaient attirés par les troupeaux qui n'étaient pas gardés. Ils les volaient et les vendaient dans le Languedoc voisin. Et au passage, ils se livraient à toutes sortes d'exactions sur les populations locales. Voilà, donc Bertrand d'Arpajon, qui est commandeur de Sainte-Eulalie, à l'époque, va demander l'édification des remparts autour des principaux lieux de sa commanderie pour que les habitants qui travaillent les terres et s'occupent des troupeaux restent sur place. Donc on va édifier des remparts à Sainte-Eulalie, à la Cavalerie, à la Couvertoirade. Et au Viala du Pas-de-Jau, comme c'est un peu plus petit, on va édifier une tour refuge. Et l'abbesse de Noninck aura la même idée pour fortifier le village d'Olcas, qu'on connaît sous le nom de Saint-Jean d'Olcas aujourd'hui. Et c'est Dordéalos, qu'on connaît aussi sous le nom de Deodat Alaus, qui s'est occupé de la fortification de tous ces sites.
Et oui, justement, en préparant cette émission, j'ai vu qu'on parle de la tour du Viala du Pas-de-Jau, alors que la commune aujourd'hui s'appelle le Viala du Pas-de-Jau. On a peut-être un peu oublié dans le nom cette tour-là.
Oui, c'est une tour refuge. Et donc, à l'origine, le Viala relevait d'une abbaye, j'allais faire un lapsus, d'une commanderie hospitalière. Et ça a été intégré à la nouvelle commanderie hospitalière du Larzac, qui était à l'origine templière. Voilà.
Alors, revenons à la cavalerie. Donc, quels sont les vestiges aujourd'hui de cette partie templière, de cette partie hospitalière qu'on peut voir et que tu fais visiter?
Oui. Alors, les éléments templiers sont des éléments de maçonnerie de l'ancienne chapelle qui sont conservés dans la nef actuelle qui, elle, a été construite au XVIIIe siècle. Donc, on a le chevet plat, deux murs perpendiculaires de l'ancienne nef qui constitue aujourd'hui le narthex. Et il y a les fondations de cette chapelle sous la place de l'église. Et il y a une fouille archéologique qui a été menée il y a quelques années. Et le tracé de l'église primitive est matérialisé par un dallage rectangulaire sur la place. Donc là, c'est ce qui concerne les templiers. Il y a aussi la citerne du logis dans l'église. Et les hospitaliers, c'est tout le reste. Ce sont d'abord les fortifications. Et ce sont de nombreuses jasses qui ont été construites sur le Larzac et à proximité de la cavalerie au XVIIe, au XVIIIe siècle. Mais dans le village, remparts hospitaliers et quelques éléments templiers dans l'église.
Alors, en 95, il y a une prise en compte un petit peu de la richesse de ce patrimoine. Alors, effectivement, à la cavalerie, mais surtout, et aussi, à la Couvertoirade, où c'était déjà touristiquement exploité, parce que c'était resté relativement préservé. À Sainte-Eulalie-de-Cernon, au Viala du Pas-de-Jau. Donc, Saint-Jean d'Alcas, qui a une histoire, d'après ce qu'on comprend, un petit peu parallèle quand même. Et donc, il se crée à ce moment-là un conservatoire templier hospitalier du Larzac.
Oui, donc ça a été voulu par le président du Conseil Général, qui était Jean Puech. Et une association a été créée en 1995 et Jacques Miquel en faisait déjà partie. Et ensuite, il a été créé le syndicat mixte conservatoire à Larzac templier et hospitalier en 1999, il me semble. Le but était de mener à terme le projet Larzac templier hospitalier, qui était une mise en valeur des sites, leur développement touristique et la mise en réseau des sites. Voilà. Et donc, le syndicat mixte était constitué de représentants des communes concernées, du conseil général. Et puis, il y avait aussi le conseil scientifique qui était présidé, me semble-t-il, par le professeur Léon Pressouilla et dont Jacques Miquel faisait partie localement.
Voilà. Et c'est ce qui a permis ensuite, effectivement, des investissements, notamment sur la cavalerie. Parce que la cavalerie, avant 1995, on voit quasiment rien.
On voit rien. Rien n'a jamais été mis en valeur. En fait, c'est le contrat de site majeur qui a été signé en 1997 et qui courait jusqu'en 2000 avec des fonds, des subventions, départements, il y a eu aussi des fonds de l'Europe qui ont permis aux sites, selon leur niveau d'avancement dans ces différents domaines, de restaurer, d'animer et de mettre en place des outils de médiation historique et de patrimoine sur les différents sites concernés.
Et donc ça a permis la réhabilitation du chemin de ronde à la cavalerie.
Oui, Oui, il y a eu 15 ans de travaux de restauration ininterrompus qui ont été portés par Robert Muret, qui était notre maire à l'époque et qui s'est investi à 3000% dans ce projet. C'était vraiment très important pour lui. Et donc, oui, on a dégagé les remparts des bâtiments qui le parasitaient à l'extérieur, rebouché des ouvertures lorsqu'elles n'existaient pas à l'origine et lorsque c'était possible de les reboucher. Et ensuite, on a réhabilité le chemin de ronde qui n'était plus accessible depuis le 18e siècle. Et la partie qui a été réouverte mesure 220 mètres. Voilà.
Et c'est là où on peut le visiter.
Oui, absolument. On peut visiter le chemin de ronde. Alors, c'est en toute autonomie. Et ça permet également de voir des salles et une exposition sur les monnaies des croisades.
Alors, autour de la cavalerie, il y a d'autres choses à visiter ? Toi qui fais un peu office de,
d'information
touristique, sur la commune et un peu au-delà. Mais en tout cas, sur la commune, quand les gens viennent te voir ton point d'accueil, donc, qui est situé auprès de la Tour des Commandeurs, c'est
ça ? Oui, la Tour des Commandeurs. Ouais.
Voilà. Tu leur conseilles il dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, voilà, alors, on a deux jours à passer à la cavalerie, qu'est-ce qu'on pourrait visiter ?
Ça dépend de leur centre d'intérêt,
oui,
mais on leur parle des possibilités de randonnée. Il y a aussi les alpagas filent sur le Larzac à la cavalerie, donc des visites sont organisées le mercredi et le dimanche.
Dont on va entendre aussi un reportage.
Et donc il y a les sentiers de randonnée autour de la cavalerie avec le sentier des dolmens, mais on parle aussi des autres sites du circuit templier hospitalier puisqu'on est en réseau et qu'il faut bien expliquer aux gens que la cavalerie s'inscrivait dans une entité qui était la commanderie du Larzac. Voilà, donc on parle bien sûr de l'agropastoralisme, des paysages et du classement patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que c'est très important, et tous les marqueurs de ce patrimoine agropastoral qu'on peut découvrir autour de la cavalerie, mais aussi sur le plateau du Larzac et ailleurs. En fait, c'est assez large. Mais on parle de tout, en fait.
Avec un développement des activités et loisirs sportifs de nature. Donc, il y a deux GR qui passent au...
Oui, GR 71C, 71D. Il y a aussi la alors, je ne dis pas de bêtises, la grande traversée du Massif Central, GTMC, pour les VTT, donc, qui passe dans la cavalerie.
Et maintenant, le Gravel qui se...
Oui.
Alors, le Gravel, je pense que tout le monde connaît, mais pour les auditeurs, auditrices, éventuellement, c'est entre le VTT et le vélo de route. Ça a la forme, on va dire, d'un vélo de route, mais on peut aller sur des chemins avec. C'est équipé, c'est aménagé, enfin... pour pouvoir effectivement aller sur des chemins un petit peu plus difficiles. Effectivement, l'Écosse se prête vraiment à ces activités. Hier, justement, je dis ça parce qu'hier, on a vu un groupe de 5-6 personnes qui faisaient une balade sur le Larzac en gravel.
Et oui, on a beaucoup d'activités, sport, loisirs, plein air, sur le plateau.
Alors hier, on a enregistré une émission avec les collégiennes, parce que c'était deux filles du collège du Larzac qui ont un projet de classe média et qui travaillent sur ce trimestre sur le tourisme et le patrimoine. Et la question qu'elles posent aux invités, j'ai envie de te la poser aussi, c'est est-ce que tu penses que le tourisme profite, ou plutôt le patrimoine bâti, par exemple, dont tu as parlé, profite au développement des sports nature, ou c'est plutôt l'inverse, le fait qu'il y ait beaucoup de loisirs sportifs qui se développent, qui crée un intérêt accru pour le patrimoine aussi ?
Je ne sais pas. Là, très sincèrement, je ne saurais pas répondre parce qu'il faudrait que je puisse poser la question aux pratiquants. Moi, j'ai beaucoup de randonneurs. Il y a quelques années, ils venaient pour randonner, marcher. Et maintenant, oui, leur pratique s'accompagne d'une découverte du patrimoine et ils font des visites guidées. Ils font des séjours rando qui allient bien sûr la pratique, randonnée et la découverte de nos sites. Pour le vélo, moi, j'ai beaucoup moins de cyclistes quand même qui me sollicitent pour les visites guidées, pour être tout à fait honnête.
On en parlera ce soir avec Monsieur Azaïs.
Oui, tout à fait, on va parler de la voie verte du Larzac. Eh bien, merci beaucoup, Sandrine.
Merci beaucoup à vous.
Est-ce que tu veux donner des infos sur le point d'accueil ou sur les peut-être prochains événements ou visites ?
Les horaires d'ouverture.
Alors, les horaires d'ouverture diffèrent d'une semaine à l'autre en ce moment parce que je suis toute seule. On est ouvert les week-ends, on est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h. Les visiteurs peuvent accéder au chemin de ronde et découvrir l'exposition des monnaies des croisades de 9h jusqu'à 11h30 et de 14h jusqu'à 17h30. Nous proposons également des jeux de piste à destination des enfants et des familles. L'été, nous avons l'Escape Bag, le jeudi, tous les jeudis. Alors là, c'est vraiment une découverte très ludique et très, très sympathique que l'on propose aux familles, aux groupes d'amis. Là, c'est des longues découvertes. Hein. Ce sont des parties qui peuvent durer 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est le jeudi et c'est sur réservation auprès de l'office de tourisme ou auprès du point d'accueil. Et nous proposons bien sûr des visites guidées, toute la, enfin, pour les individuels en période estivale et les groupes tout le reste de l'année sur réservation. Alors je voudrais rien oublier, mais peut-être que je vais faire des oublis. Donc la commune là va organiser un repas pour la fête des voisins. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de vous en parler.
Je crois que nos collègues qui ont préparé l'agenda ont toutes ces dates.
Voilà, voilà.
Mais Sandrine, on te remercie beaucoup pour nous avoir fait partager ta passion pour l'histoire.
Merci.
D'une façon très simple et très compréhensible par toutes et tous. Et encore vraiment un grand merci. Ça m'a fait un grand plaisir de te retrouver.
Et vive le théâtre amateur. Merci beaucoup.
Merci. Et donc, en attendant nos prochains invités, on va essayer de les récupérer dans le village. Je vous propose d'écouter deux comptines enregistrées à la crèche Les Petites Frimousses de la Cavalerie. Donc, les maîtresses s'investissent depuis 2 ans déjà dans un projet de comptine du monde. Et donc, elles chantent tous les jours aux enfants des comptines en plusieurs langues. Et j'ai eu le plaisir d'aller les enregistrer il n'y a pas très longtemps. Donc, je vous propose d'en écouter deux maintenant. Et puis, vous allez les écouter dans toute cette journée spéciale d'émission. Elles vont habiller notre direct.
Olélé.
Olélé.
Olélé. Olélé. Moliba Makassi. Olélé. Olélé. Moliba Makassi. Bokanaye. Bokanaye, boka boka kasai. Bokanaye, bokanaye, boka boka kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi.
Merci nos amis de France 3, on a mérité un petit reportage, ça c'est cool.
Et nous sommes toujours dans la caravane de Radio Larzac installée à la Cavalerie, nous sommes en direct et Didier, il y a des invités qui nous rejoignent.
Alors, tout Radio Larzac voulait commencer votre interview, enfin votre participation, en vous remerciant de nous avoir aidés à monter ce projet qui nous tient vraiment à cœur, hein, puisque c'est vraiment l'ADN de la radio, cette caravane. Bon, donc je pense que mes collègues vont vous passer à la question, entre guillemets, et je vous souhaite bonne chance avec nous.
Merci beaucoup.
Merci. Donc, et puis on accueille aussi Jeanne Andrieux. Donc, c'est un plaisir de recevoir deux générations de maires, si j'ose dire, puisque Monsieur André, vous avez été maire de 1979 à 1995. Bonjour.
C'est bien ça. Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Et vous étiez déjà là hier avec les enfants. Donc,
oui, les enfants de l'école, oui.
Mais merci d'être là aujourd'hui aussi. Je commencerai par parler peut-être du présent. Donc, monsieur le maire Nicolas Muret, est-ce que vous pouvez nous présenter la commune de la Cavalerie en quelques mots ?
Écoutez, la commune de la Cavalerie présente aujourd'hui 2250 habitants environ. Une commune qui petit à petit se développe, notamment depuis 10 ans grâce à l'arrivée de la Légion qui a amené un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, il comptabilise 1478 personnes. Voilà. La commune, avant l'arrivée de la Légion, était de 1071 habitants. Voilà. Donc petit à petit, ça se développe. Ils amènent énormément au niveau des familles sur la commune proprement dite. Également au niveau des écoles, puisque au niveau des écoles, nous avons sur les deux écoles 80 enfants sur l'école privée, 120 enfants sur l'école publique, et également sur le collège où nous aurons à la rentrée 180 enfants.
Effectivement, la journée d'aujourd'hui est consacrée à la parentalité, à l'éducation en milieu rural, et c'est vrai que nous avons travaillé avec les associations et les services consacrés à l'enfance et aux jeunes. Comme vous l'avez dit, il y a deux écoles, un collège, il y a une crèche, l'accueil périscolaire et le club ado. Il y a aussi un gymnase et des associations sportives. Donc ces services-là sont importantes pour la commune. J'imagine que vous avez un retour aussi de vos administrés sur ces services-là.
Tout à fait, puisque au niveau des associations sur la commune, nous avons 17 associations de la commune, plus des associations extérieures qui interviennent.
On a parlé avec Sandrine Pierre de cette position géographique privilégiée sur le plateau du Larzac de la Cavalerie qui a été quelque chose de très important, un élément très important pour son développement dès l'histoire ancienne. Et c'est quelque chose qui se ressent encore aujourd'hui, qui favorise le développement de la commune encore aujourd'hui.
Mais quand on regarde bien, la commune est située à proximité de l'échangeur 47 sur la 75 qui amène pas mal de tourisme également. Donc voilà, c'est un attrait quand même touristique par rapport aux 5 cités templières dont nous faisons partie.
Et pas mal d'entreprises aussi, parce qu'on a vu une zone artisanale, enfin je ne sais pas si c'est une zone artisanale et qui s'est développée ces dernières années.
Tout à fait, nous avons une zone artisanale qui représente aujourd'hui à peu près 400 emplois qui partent, si vous voulez, les entreprises partent grosso modo de la fabrication de turbines par rapport à la consommation électrique, si vous voulez. Et ensuite, ça passe par des fromageries, par divers garages, que ce soit agricoles, poids lourds ou même VL. La construction de mobil-home, on a une zone artisanale qui est, je dirais, quasiment complète.
Et oui, vous avez parlé des associations aussi. Est-ce que vous voulez revenir un peu sur la dynamique associative ou des habitants de la Cavalerie ?
Alors, la dynamique de la Cavalerie, au niveau associatif, nous avons principalement plusieurs associatifs qui présentent plusieurs membres, en l'occurrence le foot, où ils sont quand même 180 licenciés. Au niveau de la pétanque, il y a également énormément de licenciés. Et ensuite, nous avons plusieurs associations où il n'y a pas forcément beaucoup de membres, mais qui sont très dynamiques sur la commune.
On les a vus. On en parlera aujourd'hui. C'est un peu grâce à eux aussi qu'on est là.
Vous avez été élu maire donc en mars. Quels sont vos projets, vos chantiers prioritaires pour la commune ?
Alors nos chantiers prioritaires, ça sera principalement l'entretien du patrimoine, tout simplement dans un premier temps. Et ensuite, nous verrons en fonction des états de finances de la commune ce que nous pouvons faire et réaliser.
Moi, j'avais une petite question, alors pas vraiment personnelle, mais moi je vous trouve être un jeune maire quand on sait que la moyenne des maires en France c'est 59 ans. C'est votre âge ?
Tout à fait.
Je ne le savais pas. Bon, mais voilà, donc vous êtes un maire normal en fait.
Tout à fait, merci beaucoup de me rajeunir.
Qu'est-ce qui pousse donc, parce qu'il faut aimer son village, il faut aimer les gens, même ça devient presque, c'est plus qu'un village maintenant, c'est ce qu'on appelle un centre-bourg, je crois, dans les nouveaux termes administratifs. Qu'est-ce qui pousse à un moment donné à devenir maire ? Qu'est-ce qui vous a motivé ?
Mais écoutez, je suis conseiller municipal depuis 2011. Je m'intéresse à tout ce qui est attrait à la commune et on va dire divers sujets, surtout ce qui est institutionnel. Donc là, j'ai passé le pas, on va dire, par rapport à la faisabilité d'être maire. On a eu l'avantage qu'il y ait qu'une liste sur la commune, d'où l'élection de l'ensemble de la liste des 19 personnes. Donc voilà, après c'est peut-être plus, alors peut-être pas une passion, mais c'est le fait de découvrir et d'apprendre tous les jours des choses, voilà.
Quand vous avez une équipe à la mairie, je parle du personnel, j'ai peu vu en fait de conseillers municipaux ou de conseillères municipales, mais vous avez une équipe formidable qui a été très à notre service depuis hier, et voilà, je tenais à les remercier.
Merci beaucoup, c'est une équipe qui est très dynamique et je souhaite que ça le reste.
Merci beaucoup, Monsieur le maire Nicolas Muret. Eh bien, j'ai envie de poser un peu la même question à votre prédécesseur Jean Andrieux. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir maire, à vous présenter en tant que maire ?
Une autre époque.
C'est une autre époque. C'était déjà notre siècle. Et ça m'est arrivé un peu par accident, moi. Je suis rentré au conseil municipal en 71, après un mandat complet et les élections de 77. J'ai été promu premier adjoint avec le mandat de mon prédécesseur, qui hélas est décédé quelques années plus tard. Et c'est là que le conseil municipal m'a porté à la tête de la mairie.
Alors, vous avez été maire 17 ans.
Et j'ai été maire pendant 17 ans.
Et alors pendant ce temps-là, comment a-t-elle évolué? Comment vous l'avez vu changer, la cavalerie?
Eh bien, je suis arrivé à tête de la mairie à une époque particulièrement difficile parce qu'on parlait de l'extension du Canularzac. J'ai entendu parler de l'extension du Canularzac. Bon, on a parlé depuis longtemps, certes, elle le souhaitait depuis longtemps. Et en 71, à un congrès politique qui s'est déroulé à la salle des fêtes, où je participais puisque je venais d'être élu conseiller municipal en 71, M. Fanton, qui était ministre de la Défense, je crois, à l'époque, est venu nous annoncer l'extension du Canularzac. Alors là, c'est parti. Ouf, vous avez connu l'histoire du Larzac quand même. Et moi, j'ai vécu toute cette période. Ça a été difficile pour moi, jeune maire de 35 ans, de me taper l'histoire du Larzac. Où ça a été la guerre fratricide à la cavalerie.
Et oui, parce qu'à la cavalerie, il y avait...
Les pour, les
moi, j'étais à la toute première manifestation.
Ah, mais là, sur la place.
Non, c'était une manifestation, je crois, on partait du Rajal ou du Vert, et on venait à pied. J'avais 10 ans, donc maintenant, les gens sont en mon âge. Oui. C'était en 71. Et effectivement, la cavalerie, on savait qu'il y avait les commerçants qui étaient pour, et c'est normal. Et puis, bon, on voit
même certains agriculteurs, moi, qui étais tout minot à l'époque, mais je sais que certains agriculteurs... c'était pas l'agriculture d'aujourd'hui, je veux dire, ils travaillaient durement les paysans, hein, il n'y avait pas la machine d'insertion agricole et tout. Et certains paysans souhaitaient vendre, pensaient que c'était une opportunité de vendre leurs terres, qui étaient particulièrement pauvres, à l'armée. Certains paysans, mais pas tous, hélas. Il y a eu une confrontation entre... Oui. C'est une guerre fratricide, hein, difficile.
Et alors après, en 81, quand Mitterrand a annoncé l'arrêt, ça a dû...
Oui, en 81, alors la cata, parce que au conseil municipal, moi, avec mon maire, mon prédécesseur, M. Lapeyre, que j'ai remplacé en 79, donc, puisqu'il est décédé, on avait vendu déjà tous les communaux pour les besoins de la défense. Ils avaient insisté, il faut vendre les communaux pour la grandeur de la France, pour les besoins de la défense nationale. On avait vendu nos communaux. Poum, en 81, donc j'ai été maire, patatrac. On n'a plus besoin de vos communaux, rachetez-les si vous voulez. Rachetez-les, moi. Heureusement, je n'avais pas mangé les sous. On avait gardé les sous. Et je n'ai pas voulu le racheter. Moi, j'ai dit non, moi, pas question. On est lésés dans cette histoire. Vous nous dites d'un côté de vendre les communaux, quelques temps après, il n'y a aucune continuité dans les affaires de l'État. Nous, moi, on n'est pas d'accord. J'ai insisté. Et 10 ans après, les a rachetés, les communaux. 10 ans après, 100 millions de moins.
Ah oui.
Mais j'ai travaillé longtemps quand même pour avoir ça. J'étais voir le directeur du service fiscaux à Rodez plusieurs fois là-haut. Hein. Mais on a gagné, on a racheté les communaux donc, parce que les chasseurs nous harcelaient pour qu'ils voulaient récupérer les droits de chasse, les droits de pacage. Donc on a racheté nos communaux, on est toujours propriétaires de nos communaux. Ça a été une période difficile. Hein. Moi je l'ai mal vécu ça.
Effectivement, donc on parlait encore une fois de la position un peu stratégique de la cavalerie au carrefour des routes qui traversent le plateau du Larzac. Oui. pendant vos mandats, comment vous avez profité de ces axes stratégiques ou peut-être développé ces axes-là ?
Oui, tout à fait. La cavalerie a toujours été sur le chemin des hommes, je veux dire. Vous savez, on n'a rien inventé quand ils ont tracé quand ils ont fait le tracé de la nouvelle autoroute, il est à 100 mètres de la voie romaine. Hein. Donc ils n'ont rien inventé jusqu'au Rajal del Gorp là-bas, et la voie romaine et l'autoroute sont parallèles, je veux dire. Et on s'était rendu compte, à l'époque, on avait fait une étude, on savait qu'il y avait deux zones stratégiques, qui étaient Sévérac et la cavalerie, qui se situaient à mi-chemin, on parlait de l'Europe déjà à l'époque, hein, et de plus en plus, on en parlait de plus en plus. On s'est aperçu que Sévérac et la cavalerie se situaient à peu près à mi-chemin entre Paris et Barcelone. Donc ça pouvait être qu'une opportunité pour développer les zones artisanales de ces deux villes-là, de ces deux villages-là. Déjà, ça nous avait préoccupés. Et on a fait en sorte, après, avec l'extension, on a bénéficié, il faut dire, de l'extension du camp pour faire un premier remembrement qui nous a rien coûté et dont les agriculteurs bénéficient largement aujourd'hui. Et de second remembrement avait l'arrivée de la 4 voies, de l'autoroute. Donc on a eu toutes les opportunités pour mettre de notre côté là.
Alors moi j'avais une question un petit peu peut-être tendancieuse, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut parler du serpent de mer, du fameux village de Marc, hein?
Ah bon, moi c'est ça.
Parce que souvent quand on parle de la cavalerie, on parle du
village de Marc.
Village de Marc.
Mais moi j'ai été.
Où c'est arrivé après?
J'ai quitté la mairie en 95, donc on n'en parlait pas à l'époque.
Moi,
j'ai
jamais. Non, mais en tant que cavalérien.
Cavalerie, moi j'étais d'accord, moi au début j'ai cru, franchement j'ai cru parce que c'était un projet. Il faut dire que bon, dès que la cavalerie a pris l'extension, avec l'arrivée de l'autoroute, après la non-extension, les zones artisanales se sont développées, que ce soit celle de la cavalerie ou celle de bio qui sont communes maintenant, ça s'est développé. Mais on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient venus à la cavalerie chercher des subventions. Le terrain était gratuit, il y avait des primes pour création d'emplois et tout, il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui ne sont pas restés ici. Mais contrairement à ces gens-là, le village de Marc, je n'ai pas vécu cette période parce que j'avais déjà quitté la mairie, mais les gens qui sont venus investir ici n'ont rien demandé à personne, ils sont venus investir leur argent, ils n'ont rien demandé à personne. C'est là que j'ai cru que le projet était viable, quoi. C'est dommage qu'il ne soit pas développé dès l'arrivée de l'autoroute et dès l'ouverture du viaduc.
Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait ?
Il y a eu des recours. Les commerçants, il y a eu pas mal de recours de Saint-Afrique, de l'Odève, de Millau, je crois savoir. Les commerçants qui ont eu peur que leur commerce périclite dans ces villes-là, alors que je ne pense pas que ce soit... que ça a été vraiment concurrent pour les petits commerces qui existent dans ces villes-là.
Maintenant, il y a Amazon.
Voilà, maintenant il y a Amazon, hein. C'est sûr, je vous rejoins tout à fait.
Pour revenir à votre engagement personnel, on l'a vu hier, vous êtes attaché à la transmission, à l'engagement citoyen à travers les générations. Ce n'était pas la première fois hier que vous rencontrez les jeunes et les enfants. Et j'ai vu que vous tenez beaucoup, par exemple, au conseil municipal des jeunes aussi, à la cavalerie. Quel est votre regard sur l'engagement des jeunes en milieu rural ?
Ah ben moi je pense que, vous savez, moi j'ai eu la chance, je suis né à la cavalerie, je suis né à cette maison là au 1, et j'habite au 3 et j'habite au 1, j'ai pas fait grand chemin, hein. J'ai voyagé beaucoup dans ma vie mais j'ai pas jamais quitté la cavalerie. Je suis né ici, bon, j'étais enfant de cœur, j'ai joué au foot, j'ai jamais quitté la cavalerie. Je me suis retrouvé à 22 ans au chômage et j'ai pas voulu quitter la cavalerie, j'ai monté mon entreprise. Hein. Et j'ai jamais quitté la cavalerie. J'avais une entreprise de peinture que j'ai menée pendant 42 ans. J'ai eu la chance de la revendre à un de mes employés, et j'en avais une dizaine à l'époque. J'ai eu la chance de la revendre à un de mes employés. J'ai jamais quitté la cavalerie. Et j'y suis très attaché. D'ailleurs, je suis Nicolas Muret, qui est le fils de mon successeur, d'ailleurs. Avec qui on n'était pas très copains parce qu'on s'était un peu cramponné avec son père. Mais enfin, Nicolas, rien de... Je n'aime pas du tout à Nicolas, je suis prêt à l'aider. Je suis content qu'une jeune mère commence à... Moi, j'étais maire à 35 ans, lui, elle était à 59. C'est bien, on a des jeunes mères. Mais ça a été dur pour moi, 35 ans. J'avais trois enfants, une entreprise, la mairie, l'affaire du Larzac. Je n'ai pas eu que des bons souvenirs. Enfin, je ne regrette pas y être passé. Ça a été une expérience tout à fait motivante. Je ne regrette pas d'avoir vécu ce temps-là.
Et vous encouragez les jeunes à s'engager ?
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, hier, j'ai posé la question à quelques jeunes autour, là, des petits jeunes qui étaient motivés. Quand on parlait de la Coupe du Monde, il y en a un qui m'a demandé si la première Coupe du Monde que j'avais vue à la télévision 56, il y avait Mbappé, il m'a dit. J'ai dit, pas encore, non. Et après, quand j'ai posé la question à quelques jeunes, j'ai dit, il n'y en a pas parmi vous qui voudraient être maire. Il y en a 4 ou 5 qui ont levé la main, là. Hein. Ils sont prêts à assurer la relève.
Ça vous touche ?
Eh oui, puis j'aimerais bien que...
Oui, c'était plus juste Fontaine que Mbappé.
C'était Fontaine ou Coppa, ou Fiantoni, ouais. Ou Pemberne. Et...
Il nous reste un petit peu de temps. Alors justement, c'était quoi être enfant dans votre génération à la cavalerie ?
Ah, c'était, on était heureux. Hein. Moi, j'ai un bon souvenir de mon enfance à la cavalerie. On n'avait pas, je l'ai dit aux gosses, on n'avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision en couleur, il nous manquait beaucoup de choses, on n'avait pas grand-chose. Et c'était, moi, je suis né en 1944, c'était... De suite après la guerre, hein, on jouait au foot là, dans les rues du village. Le maire nous faisait la course parce que de temps en temps, on engrenait les fils là-haut, il n'y avait pas de lumière le soir. Et les carreaux descendaient. On s'amusait avec un cerceau, je ne sais pas, vous avez connu ça peut-être. Une vieille jante de vélo et on faisait la course avec ça. Mais on était heureux. Hein. On allait faire le coup du portefeuille pour arrêter les voitures sur la route, la neuf là-haut. Enfin, on jouait, bon, j'ai beau souvenir de ma jeunesse. Hein.
Et qu'est-ce que vous souhaitez pour la cavalerie aujourd'hui ?
Moi, ce que je souhaite, c'est que ça continue, que la cavalerie continue à se développer sans s'étendre trop. Parce que je me rends compte qu'on a quand même perdu une familiarité qu'il y avait à l'époque. C'est devenu presque un petit village dortoir, la cavalerie. Au conseil municipal, je connais à peu près la moitié des conseillers. C'est tout.
C'est déjà
pourtant,
je
n'ai jamais quitté la commune. Je connais la moitié des conseillers, mais je pense que je ne leur laisse pas la pierre. Je suis persuadé que c'est des bonnes volontés. Mais voilà, on perd un peu de vue. À l'époque, il y a toujours eu deux listes à la cavalerie. On se bagarrait pour les élections. Hein. Là, pouf, il n'y a pas eu beaucoup de concurrence.
Je crois que le changement aussi d'organisation d'élections dans les petites communes a joué un petit peu.
La parité d'un côté.
La parité. Et de plus pouvoir panacher, quoi qu'ici, vous y étiez. Si.
Pardon.
Vous étiez soumis au panachage avant ou pas ?
Oui, aussi. Hein. Panachage. Bon, ouais. C'était. Ça a joué.
Moi, je pense que ça a joué parce qu'on voit qu'il y a
d'ailleurs,
beaucoup de.
D'ailleurs, le résultat des élections le prouve. Il y a 900 électeurs. Ici, je crois, 900 électeurs, il y a eu 600 votants. Et 340 exprimés. Hein. Alors qu'à l'époque, on bagarrait. On finissait les dépouillements à minuit. Parce que c'était panaché, et on en riait, on y mettait, par exemple, Brigitte Bardot à la place, il fallait comptabiliser tout ça. Et ça finissait à minuit, les dépouillements.
Eh bien, merci beaucoup, Jean Andrieux.
Avec plaisir.
Vous avez été
merci
maire de la cavalerie de 1979 à 1995. Et merci pour votre participation hier et aujourd'hui. Et
merci,
on arrive doucement à la fin de cette première émission. Merci, William.
Merci à toi, Sophia. Merci, Nico, aussi.
Oui, merci, Nico, à la technique. Et merci à Didier qui a participé. Et merci à nouveau à Sandrine Pierre qui nous a raconté l'origine du village et son histoire templière et hospitalière. Et merci à Nicolas Muret, maire de la cavalerie. Et puis merci encore une fois à la mairie de la cavalerie pour le soutien logistique.
Alors si Tommy peut avoir la caravane en dessous du prix demandé, il aura droit à un petit cadeau à son retour.
Radio Larzac 98.6 ou 87.8 à la cavalerie si vous êtes en haut ou si vous êtes en bas.
Et oui, nous sommes toujours dans la caravane de Radio Larzac, nous sommes en direct, nous sommes à la cavalerie pour la première escale de notre projet La Caravane en Balade. J'en profite pour rappeler que ce projet se veut participatif, donc vous pouvez, si vous habitez la cavalerie ou aux alentours, venir écouter ces émissions avec nous sur la place de la mairie. Et puis ce soir, il y a plusieurs temps conviviaux qui sont proposés. À 18h30, il y a la Peña des Templiers qui va se produire ici sur la place. À 19h, nous proposons un apéro quiz partagé donc devant la draille. qui est un lieu partenaire, qui est installé à la Cavalerie et consacré à l'art sonore. Donc ça faisait vraiment sens pour nous de faire un lien avec elle et avec eux. Et puis, on enchaîne avec un repas partagé sur la place de l'Harmonie. Donc vous pouvez apporter ce que vous voulez à manger et à boire. Et nous, on a prévu aussi de quoi manger et boire ensemble. Et puis, la DRAI propose un concert à 20h30, un concert d'Ingrid Aubled, le chant des baleines stellaires, qui est proposé aussi un partenariat avec Radio Larzac, puisque ce sont Iris et Bruno, le duo Tripphonique, qui vont présenter ce concert, qui sera retrouvé dans l'une de leurs émissions prochainement à l'antenne. Mais pour enchaîner sur cette journée spéciale d'émission, on vous propose maintenant d'écouter deux interviews enregistrées hier, ici même à la caravane, par les enfants de l'école Saint-Bernadette, qui ont interviewé deux aînés du village, deux personnes qui connaissent bien l'histoire de la cavalerie. Il s'agit de Madame Gazagne et Monsieur Andrieux, que vous avez entendu aussi juste avant. Donc à la radio, on a Radio Larzac, on a cette émission qui s'appelle « Les gens d'ici ». Eh bien, aujourd'hui, c'est les gens de la cavalerie.